Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, la mort d'un homme expulsé de son logement par les policiers à Chambéry.
Il a été victime d'un malaise, les détails dans un instant. Les élèves de terminale auront leurs résultats demain, promesse du ministre de l'Éducation. Par ailleurs, 5 lycéens toujours en garde à vue, soupçonnés de fraude sur des sujets de mathématiques. 14 autres ont été libérés, vous entendrez le père de l'un d'entre eux. La visite d'Édouard Philippe en Corse, la première. Les désaccords restent profonds avec les nationalistes. Le retour des enfants de djihadistes en France, ils sont 12 à être rentrés il y a un mois, parmi eux 10 orphelins. Et puis les sports, les Pays-Bas rejoignent les États-Unis en finale de la Coupe du Monde. Victoire des Néerlandaises 1-0 face à la Suède.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
Quelques nuages ce matin à Mimizan dans les Landes, mais retour d'un ciel bleu cet après-midi sous une température en hausse, 34 degrés.
RTL Matin.
Les circonstances du drame restent à préciser, mais un homme est décédé hier à Chambéry lors d'une intervention policière pour l'expulser de son logement.
Oui, cet homme âgé d'une cinquantaine d'années a été victime d'un malaise alors que plusieurs fonctionnaires intervenaient avec un huissier pour lui faire évacuer son appartement en raison de loyers impayés. Le père de famille de quatre enfants a refusé de se plier aux injonctions des fonctionnaires. L'un de ses voisins témoigne. C'est un document RTL signé Serge Puyot.
Il voulait le sortir de chez lui. Et à un moment, il s'est énervé, il s'est pris la tête avec les policiers. Ils ont essayé de le menotter. Lui, il s'est débattu, normal, en les insultant et tout. Du coup, ils ont mis les menottes pour le canaliser. Ils l'ont traîné dans la cage d'escalier. Il se débattait un peu parce qu'il voulait pas descendre. Là où il a dit que il en pouvait plus, en gros, voilà, il commençait à se sentir pas bien. Les policiers, ils ont essayé de le porter pour l'emmener jusqu'en bas. Et alors là, ils l'ont emmené jusqu'en bas, ils l'ont mis dans le véhicule. Et il a fait un arrêt cardiaque dans la voiture des policiers. Ils ont commencé le massage cardiaque. Il est décédé, quoi. Moi, c'est la honte, en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, tout simplement. Faut arrêter, il n'y a pas d'autre mot. Il a essayé de garder son appartement, sa femme et ses enfants. Il en a payé le prix cher, la mort. Père de famille, quatre enfants, décédé pour un appartement, c'est honteux. C'est pas l'image de la France qu'on avait aujourd'hui. Mourir comme ça, c'est triste. Tout simplement, on dit qu'il faut aider les autres, aider son prochain. Là, on a aidé personne. Il y a un mort, et puis c'est tout.
Un document RTL signé Serge Puyot. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été ouverte.
Malgré les menaces de certains correcteurs, les lycéens seront fixés demain de terminale sur leur baccalauréat.
Oui, le ministre de l'Éducation s'y est engagé hier soir. Si des notes devaient manquer, elles seraient remplacées provisoirement par celles du contrôle continu et remplacées par celles de l'épreuve si jamais celle-ci était meilleure par la suite. Pas de stress donc pour les élèves, sauf pour quelques-uns. Ceux qui sont soupçonnés de fraude, 19 adolescents ont été interpellés. Depuis mardi, 5 étaient toujours en garde à vue hier soir. Les autres ont été libérés. Ils n'avaient pas visiblement intégré la gravité de leur faute. C'est en tous les cas l'argument de Guy, le papa de l'un d'entre eux au micro RTL d'Alice Moreno.
Vous avez dans n'importe quelle unité de France et de Navarre et on va vous dire, tiens, à mon avis, c'est ça qui va tomber, j'ai une fuite. Et alors, ça fait de vous un tricheur? Mon fils a été interpellé à 6h du matin. C'est vrai que c'est difficile de voir des policiers arriver à l'appartement et on a l'impression qu'on a un fils qui est un voyou, un malfrat. C'est vrai que c'est assez choquant. Je peux pas incriminer la police parce que la police, on lui demande d'enquêter, donc elle enquête. Je trouve que c'est un petit peu disproportionné. On aurait pu les convoquer, pour des renseignements. On veut savoir, on va voir les choses. J'ai quatre enfants. Si demain j'ai le frère qui passe le bac et qui se retrouve dans la même situation et que je suis au courant, je réagirai différemment. Je lui dirai, c'est un sujet de travail et t'occupe pas de ce que tu dis des autres. Et puis je lui dirai, façon, toutes les fuites, c'est que des fuites percées et t'occupe pas des autres et fais ton travail. Je peux juste te dire qu'en définitive, quand n'importe quelle personne aujourd'hui va sur Internet et qui voit des corrigés potentiels d'un sujet du bac, quelle est la personne qui ne va pas les regarder? Le sujet vient à vous. Vous vous tournez la tête? C'est difficile pour un enfant.
Propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
RTL, 6h04. Pour sa première visite en Corse, Édouard Philippe n'a pas convaincu son auditoire nationaliste.
Oui, en déplacement sur l'île de Beauté, le Premier ministre n'a pas voulu s'engager sur ce que les élus qualifient de revendication fondamentale et notamment sur une autonomie accrue. De la bonne volonté, Olivier Bost, mais des désaccords flagrants.
Oui, depuis hier, le Premier ministre et les nationalistes parlent de dialogue, de changement de méthode, d'écoute. Mais visiblement, ils ne se comprennent pas. À la tribune, Gilles Simeoni, le président de la collectivité, demande toujours plus d'autonomie.
La question corse n'est pas seulement une question économique, sociale, culturelle ou sociétale. Mais elle est aussi et fondamentalement une question politique. Ne pas prendre en compte cette dimension, c'est d'abord une forme de déni de démocratie. Et c'est ensuite prendre le risque cruel de l'échec.
Édouard Philippe ne va pas sur ce terrain politique-là. Le Premier ministre répond par du concret et seulement du concret.
Nos concitoyens n'attendent pas de déclarations, ils attendent des actes qui se traduisent concrètement dans leur vie quotidienne. Nous sommes aussi ambitieux pour la Corse que pour la France continentale, mais pleinement conscients que les spécificités de l'île appellent des réponses et une méthode spécifique.
Et la première de ces réponses spécifiques sera de l'argent avec un nouveau plan d'investissement pour la Corse.
Olivier Bosse, l'envoyé spécial de RTL en Corse.
Et en parlant d'argent, je précise que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 tout à l'heure sur RTL. Pour l'heure, 6h06 et le gouvernement est confronté au difficile dossier du retour des djihadistes de Syrie.
Oui, une dizaine de familles de femmes et d'enfants retenus sur place ont déposé plainte contre X à Paris pour détention arbitraire et séquestration, estimant que les autorités françaises faisaient clairement le choix de ne pas intervenir pour les rapatrier. Le gouvernement lui a choisi d'agir au cas par cas. Il a procédé le 10 juin dernier au rapatriement de 12 enfants de djihadistes, dont 10 orphelins. Thomas Proutot, vous avez eu accès aux documents qui permettent de déterminer leur profil.
Eh bien, il s'agit de 4 filles et 8 garçons. Près de la moitié sont des tout-petits, âgés de moins de 3 ans. Et les deux plus grands ont 10 et 12 ans. Plusieurs ont des problèmes de santé. L'un des bébés a été hospitalisé pour malnutrition avant son retour. C'est ce qu'indique la note de police. Une petite fille de 6 ans présente un fort syndrome post-trauma. Et c'est aussi le cas d'une autre fillette dont l'âge est inconnu. Deux garçons d'ailleurs n'ont aucun état civil. Ahmed X et Khaled X, date et lieu de naissance ignorés, écrit la note, qui précise qui parlent français et qu'ils ont été désignés comme français dans le camp tenu par les Kurdes. Autre indication de ce recensement rapide, la plupart des enfants en âge de s'exprimer parlent français et arabe, mais le plus grand, 12 ans dont 5 passés en Syrie, déclare qu'il ne sait ni lire ni écrire. Tous ont été confiés à des familles d'accueil volontaires en Île-de-France et en Normandie.
Information RTL signée Thomas Proutot. L'actualité à l'étranger, au moins 44 migrants ont été tués et une centaine blessés dans un bombardement aérien contre leur centre de détention. Tension en Libye, les États-Unis ont empêché l'adoption d'une condamnation unanime par le Conseil de sécurité de l'ONU. En Algérie, le président par intérim Ben Salah s'est adressé hier à la nation. Dans son discours, il a proposé un dialogue pour préparer la présidentielle dans lequel ni les autorités politiques ni l'armée ne seront, selon lui, impliquées. Et puis une éruption meurtrière du Stromboli, le volcan au nord de la Sicile s'est réveillé et a tué un randonneur lors de 2 puissantes explosions. Des dizaines d'habitants et de nombreux touristes ont été évacués par la mer.
Les sports maintenant et le tennis à Wimbledon.
Qualification de Benoît Paire et Hugo Humbert pour le troisième tour. C'est terminé pour Corentin Moutet et Jérémy Chardy. Et puis, chez les filles, la jeune américaine de 15 ans et 3 mois, Cori Gauff, s'est qualifiée pour le troisième tour. Le football et un résultat de la nuit en Copa América. Le Pérou a rejoint le Brésil en finale après avoir corrigé le Chili 3-0.
Merci Anne, à tout à l'heure, 7h avec Yves Calvi.
RTL.
Le mondial d'Olivia.
Le football, c'est aussi États-Unis, Pays-Bas. Ce sera l'affiche de la finale du mondial de foot féminin dimanche 17h à Lyon. Les Néerlandaises ont battu les Suédoises hier soir 1-0 après prolongation. Bonjour Olivia Loret.
Bonjour.
Vous avez arpenté pendant presque un mois les routes de France, les routes du mondial pour nous. Pour vous aussi, hein, ça sent la fin de la compétition.
Et c'est pour ça que je voulais absolument revenir avec vous sur ce mois de compétition, sur ce mois de rencontre à travers toute la France. 7 juin, Paris, Nina et Théo ont sous leurs yeux le trophée du mondial.
Il y a une balle et c'est comme s'il y avait des tourbillons dorés et argentés.
Et moi, je me demande comment vous l'avez construite.
Alors, c'est pas moi qui l'ai construite, mais je vais demander, je pense que je vais me renseigner. Alors, comme promis, j'ai vérifié. Ce trophée qui sera brandi dimanche dans le ciel de Lyon a été conçu par le designer italien William Savaia. 18 juin, Rennes. On célèbre quand même la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale avec une petite galette saucisse.
Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Après, dans toutes les vilaines, avec du lait ribot. Galette saucisse, je t'aime. Galette saucisse, je t'aime.
Alors. 20 juin, Philippe m'offre l'hospitalité au Havre pour observer l'entraînement des Bleus juste en face. Donc là, on monte au premier étage.
Ça, c'est les gros ailes, ça, c'est les filles.
Ah oui, là, on voit tout, en fait. Là, on voit Amandine Henry qui est en train de faire une passe à Vivi Asseyi. Et Corinne Diacre, elle est à peu près
au milieu. Ouais. Elle observe.
24 juin, la France est en quart de finale et Sidonie, la maman de l'attaquante Viviane Asseyi, est heureuse.
C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Wouh.
Allez les bleus, on y croit, on y croit.
26 juin, on scie sur école. J'apprends que Marinette Pichon a un burger à son nom aux États-Unis où elle a joué.
The Huggy Pichons. Et là, je fais, ah ouais, non, là, ça déchire. Et il est très bon, hein, très très bon, avec du fromage, de la viande hachée, des petits oignons, fondus, tout ça sur la plancha.
1er juillet, Paris, fin du rêve bleu. Louane me donne un petit secret pour éliminer ma déception.
J'ai un gros nounours et je hurle sur mon nounours. Et puis comme ça, j'évacue tout et après, je peux reparler tranquillement.
Voilà, rendez-vous demain. Je vous ai réservé une petite surprise puisqu'on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin.
Eh bien, vivement demain. À demain, Olivia.
RTL.
On a tellement de choses à se dire.